à tous et à toutes et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie d'ATH.
Salut, salut.
Et de Dwayne.
Salut tout le monde.
Mordran avait piscine, donc on l'a relâché, n'est-ce pas? Au sommaire de l'actualité, cette semaine, nous vous parlerons des Kickstarter de Prodigy Flying Hamster 2. Ah bon, il y a eu un. Dead Crusade et Voxel Quest. Ah non, excusez-moi, Voxel Quest, ce n'est pas un Kickstarter, c'est un projet indépendant dont je vous parlerai parce qu'il m'intéresse tout particulièrement pour son intelligence artificielle. Mais nous verrons ça tout à l'heure. Du côté de l'actualité en général, nous vous parlerons du nouveau Mario Kart, du Nintendo Direct aussi, hein, parce qu'il paraît qu'il y a un Nintendo Direct prochainement. Est-ce qu'on en attend des choses ou pas? Amazon qui a fait une annonce cette semaine, qui a annoncé sa fameuse console, je crois, entre guillemets, parce qu'on verra
ouais,
tout à l'heure
si comment
c'est... C'était pas tout à fait le cas, quoi. Square Enix, encore une personnalité qui fait des annonces chez Square Enix. Sans oublier, bien sûr, notre jeu du moment, enfin un jeu next-gen, c'est ATH qui s'y collait pour vous, qui achetait toutes les consoles next-gen rien que pour vous.
Évidemment.
Et ce jeu, c'est Infamous Second Son.
Tout à fait.
C'est parti, donc nous allons commencer l'actualité financement participatif cette semaine avec Prodigy. Alors Dwayne, est-ce que tu pourrais nous expliquer le concept assez particulier entre guillemets de Prodigy?
Ouais, donc voilà, ben Prodigy c'est un projet français, donc de Anakei Studio. Donc le concept, ça va être un peu à la Skylanders, Disney Infinity, de réunir le jeu vidéo et le monde de la figurine. Donc là, on est sur quelque chose qui se veut beaucoup plus sérieux, déjà au niveau de la qualité des figurines qui sont vraiment pas mal. Et ensuite, on est donc là plus sur un RPG tactique. Donc on est sur un RPG tactique en tour par tour, avec des figurines. On a une plateforme qui est vraiment spécifique, avec donc avec des cases et un tableau lumineux.
Où ouais, on va c'est pouvoir, en gros fait, c'est un plateau qui vont sortir en périphérique
voilà,
annexe.
Un espèce de périphérique, un plateau annexe vraiment dédié à Prodigy, ouais, où on va pouvoir. Oui.
Parce que je précise que ça ne se jouera pas du tout à la manette, de ce que j'ai compris. Hein, donc voilà.
Voilà, c'est-à-dire qu'au niveau du gameplay, ça va être donc le déplacement des personnages se fait vraiment de manière fluide, c'est-à-dire qu'on pose sa figurine et on déplace son personnage sur les différentes cases du plateau donc dédié. Et pour par exemple balancer un sort, on va mettre une carte une carte pouvoir ou une carte magie, enfin vraiment une carte dédiée à l'action que l'on va vouloir faire. Donc c'est ça tout le concept hein, de Prodigy. Donc on est personnellement moi ce qui me gêne dans ce type d'expérience, c'est plus le nombre de sous que je vais dépenser dedans si je m'y mets. Mais sinon, au niveau purement la qualité du jeu et le concept, je trouve ça quand même assez intéressant, c'est-à-dire mélanger le jeu de plateau, l'espèce de mode qu'il y a autour de la figurine avec Skylanders et Disney Infinity, et de le ramener à un côté plus gamer, ça peut être effectivement intéressant. Sachant que juste pour faire un point au niveau du résultat, donc là on est déjà à l'objectif, c'est-à-dire qu'ils avaient un but de 100 000 $ et ils sont déjà à 108 000, sachant qu'il reste 26 jours. Après, ce qu'il faut voir, c'est surtout par rapport au prix, vu que là on est à 600 backers, donc ça veut dire qu'ils ont tous mis plus de 150 $ sur dans le projet, quoi.
Oh, voilà. Ouais, parce que c'est ce que j'allais dire, hein, pour avoir quelque chose sur ce projet, attention, va falloir débourser, hein. C'est quoi le prix d'entrée pour
Donc le prix d'entrée pour vraiment avoir le pack de base, on est à 70 $.
Ouais, quand même.
Voilà. Voilà. Donc ATH, toi qui es fortuné, voilà, qui achète toutes les consoles sur le marché, est-ce que ça t'intéresse?
Non, je vais pas acheter Prodigy parce que tu vois le concept de NFC tout ça, la Wii U le propose déjà. Non mais
avec un grand succès. D'ailleurs.
Blague à part, c'est comme beaucoup de gens ont pu le dire sur Internet, on s'est tous demandé pourquoi Nintendo ne ferait pas la même chose avec le concept des Pokémon sur la Wii U et des figurines qu'ils vendraient à côté pour faire un peu plus d'argent. Et là donc c'est Prodigy qui propose ça avec des figurines vraiment vraiment de très belle qualité de ce que j'ai pu en apercevoir en tout cas. Mais c'est sûr que moi ce genre de choses là ça me pose un petit problème sur le plan purement en fait économique, parce que ça peut être intéressant pour le développeur du jeu, mais pour les gens qui veulent qui sont assez fans on va dire du titre etc, qui vont devoir passer à la caisse assez souvent pour choper toutes les figurines, débloquer les nouveaux pouvoirs, ça va nécessiter un certain coût et un certain investissement.
Ouais, juste pour préciser justement, les lorsqu'ils donnent les prix pour deux figurines, t'es à $50.
Ah oui, quand même. Donc
en plus du pack de base pour deux, t'es à $50.
On est loin de Skylander quoi.
C'est pas donné.
Skylander, c'est combien? C'est $10 la figurine, je crois, un truc comme ça. Donc tu vois, ça risque de faire cher si tu veux avoir les nouveaux persos entre guillemets quoi.
Bon, après il faut voir que ce genre de choses, hein, c'est pas nouveau. Je veux dire, il y avait notamment Hasbro qui est le numéro un du jeu mondial du jeu de société qui faisait ça. Je crois que c'est avec les éditions volumiques. Je crois qu'ils avaient fait quelque chose dans ce genre-là. Ouais. Moi, d'une manière générale, j'ai un souci avec ce genre de concept, c'est que je ne vois pas ce que ça apporte en fait. C'est-à-dire que oui, si t'as la collectionnite, peut-être que ça peut être intéressant, mais moi, je n'ai pas la collectionnite. Alors ok, ouais, tu la pètes à la Yu-Gi-Oh, t'as ton truc qui apparaît, etc. Mais j'ai bien peur que passer 5 minutes, en fait, tu te rends compte que c'est un peu useless, quoi. Enfin, moi, honnêtement, je vois pas ce que ça porte tellement plus que d'avoir une interface en jeu qui fait exactement la même chose. Déjà, premier point. Ensuite, second point, Mordred et moi, on a suffisamment averti la semaine dernière par rapport à l'histoire de Oculus Rift, comme quoi on aurait peut-être dû un peu plus utiliser nos têtes pour bien voir que il y aurait peut-être eu des financements extérieurs qui auraient été nécessaires au projet si on avait bien réfléchi un peu. Et moi, je pense que pour le coup, c'est le cas. Parce que regardez bien le projet, quand même, on parle de produire des figurines, on parle de produire un plateau de jeu qui va être en connexion USB donc avec tous les appareils sur lesquels va sortir le projet. D'ailleurs, ça sort sur quoi, ça? Sur PC uniquement?
Effectivement, ça va être PC. Après, non, les consoles sont pas... je pense pas que les consoles soient prévues. C'est vraiment PC pour l'instant.
Tu peux y jouer qu'au clavier et souris, ça va être compliqué de sortir sur console, quoi.
Tu vas pas du tout y jouer au clavier et souris, attache. Tu vas y jouer uniquement avec le plateau, en fait.
Ah, d'accord.
Enfin, peu importe. Là où je voulais en venir, c'est que moi, je ne vois pas ce projet arriver au bout sans investissement extérieur. Pourquoi? Parce que ça implique de produire des figurines, un plateau de jeu, il faut stocker tout ça après. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un acteur à un moment donné qui entre dans la danse, genre Hasbro, ce genre de truc, quoi. Donc, moi, j'avertis les gens, vous étonnez pas si plus tard, le studio est plus si indépendant que ça, en fait, hein. Donc, parce que là, c'est marqué en gros studio indépendant, machin. Honnêtement, moi, je vois pas comment le projet peut aboutir sans un investissement extérieur, parce que c'est pas avec 100 000 €, on va dire, que tu vas réussir à gérer ça sur le plan financier. Enfin, moi, je vois pas. Ou alors, il fonctionne en flux tendu, il produit les figurines au coup par coup. Je sais pas comment il fonctionne, mais... je vois pas comment ça peut fonctionner sur le long terme sans un acteur industriel qui va mettre la main à la poche, quoi.
Ouais, c'est vrai que les coûts de production vont être assez énormes. Juste pour, j'ai vraiment calculé, c'est $180 le prix moyen qu'ont payé les backers.
Ouais. Bah, disons que
c'est assez énorme.
Je pense que ça va s'intéresser surtout à une niche assez fortuné, quoi. Déjà, à l'époque, quand je collectionnais les cartes magiques, je me ruinais là-dedans avec mon argent de poche. Là, plus la figurine qui va en plus, plus le plateau, ça risque de monter l'addition à très très vite. Et c'est sur ça, c'est le business model là qui me fait un peu peur.
Et je voudrais ajouter une chose. Moi, mon plus gros problème avec ce Kickstarter, c'est même pas qu'il y a un risque, tu vois, qu'il soit financé plus tard par une grosse boîte. C'est que, en fait... moi, le jeu, concrètement, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je sais juste que c'est un jeu RPG tactique, apparemment, de loin, comme ça. Mais alors, le détail du gameplay...
Ah, mais ça se vend totalement sur les figurines, c'est ça aussi le petit problème. C'est qu'après, est-ce que le jeu, il va être bien? Si ça se trouve, il y a plein de jeux aussi, je pense, qui le prennent juste, qui se disent qu'ils sont des gros collectionneurs et qui se disent, ah, les figurines sont bien, et ils le prennent. Je pense qu'il y a plein de gens comme ça aussi. Mais après, le gameplay, c'est vrai qu'on n'a pas trop de détails dessus, quoi.
Et même, par exemple, moi, je sais que jouer en multi sur ce genre de jeu, ça m'intéresse pas forcément. Il y a un solo, ou enfin, apparemment, il y a un solo, oui, effectivement, c'est marqué. Mais ouais. De ce que j'ai vu, l'univers a l'air supra générique. Enfin, franchement, c'est pas l'univers le plus original que j'ai vu, quoi. Je veux dire, c'est du setting fantasy ultra classique. Enfin voilà quoi, c'est pas moi je trouve pas que ça fasse envie quoi. Sorti de l'aspect figurine collectionniste qui je suis sûr en plaira à certains, ça m'attire pas du tout quoi. Mais vraiment pas. Moi je pense que c'est un projet qui s'adresse uniquement à tous ces gens qui apprécient la collection quoi. Ceux qui collectionnent les cartes magiques, qui sont prêts à dépenser des fortunes sur des cartes, ce genre de choses quoi.
C'est aussi un certain concept, c'est-à-dire que t'as une espèce de bague qui te permet de faire des actions, t'as les cartes, les figurines. Donc après, ça peut plaire une certaine frange de joueurs qui va trouver cette expérience intéressante. Enfin après, faut voir ça. Pour moi, le concept a quand même l'air intéressant, mais c'est-à-dire dans un premier temps, déjà rien qu'avec le concept des figurines. On met le gameplay vraiment au troisième plan, quoi. Donc c'est déjà à ce point de vue-là, ça me gêne et je suis pas la cible. Mais après, ça, le concept peut être intéressant pour certaines personnes.
Ok, donc maintenant nous allons passer à un autre projet Kickstarter et ce projet c'est Flying Hamster 2. Donc comme je disais tout à l'heure, ah bon, il y a eu un déjà, première nouvelle. Alors apparemment c'est un jeu sur iPhone ou ce genre de choses hein, à la base de ce que j'ai compris. Je ne connais pas le jeu donc je ne peux pas dire si c'était bien ou pas. Ce que je sais c'est que ce Flying Hamster 2, grosso modo de ce que j'ai compris, c'est du Wonder Boy in Monster World à la française quoi. Parce que oui, effectivement, c'est un projet français, n'est-ce pas? Je sais pas ce qu'ils ont les Français en ce moment avec Planet Cube, celui-là et celui dont on a parlé précédemment. Ben ça fait quand même pas mal de Français qui se lancent sur Kickstarter, ils se sont réveillés. Je ne sais pas, c'est peut-être Planet Cube qui avec son succès retentissant a donné des ailes à d'autres studios. Dans tous les cas, c'est un projet qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que grosse vidéo de gameplay, hein, je veux dire, c'est, tout le trailer, ce n'est que ça en fait, du gameplay. Studio qui a apparemment une expérience, et de ce que j'ai vu des notes sur internet, le premier opus avait été assez apprécié. Apparemment, ce second opus est assez différent du premier en termes de gameplay, donc ils prennent des risques, donc je trouve ça pas mal. Et aussi, bah, tout simplement, moi tu me dis Wonder Boy in Monster World, alors je rappelle pour les jeunes qui connaissent pas, on va dire que... c'est de l'action RPG en vue de côté, quoi, en gros, avec un open world en 2D vue de côté, avec des transformations, tu vois, qui vont permettre de traverser les niveaux, etc. Enfin bref, moi je suis fan de Wonder Boy à base. Donc tu me dis ça, en plus la direction artistique, les crocs mignonnes, voilà, c'est tout mimi, donc j'adore. Ça a vraiment une bonne identité visuelle. Et encore une fois, la vidéo du Kickstarter, un trailer de gameplay. Alors par contre, comme tu le soulignais, ATH, peut-être qu'il demande beaucoup, mais enfin, disons que moi je pense qu'il ne demande pas beaucoup, mais que pour un genre de dé, peut-être que c'est un peu trop sur Kickstarter, on ne sait pas. ATH.
En tout cas, c'est une très belle 2D qu'on a pu voir dans la vidéo de gameplay. Le jeu, il a l'air vraiment vraiment sympa, avec les différents pouvoirs qui peuvent pas mal changer le gameplay. Et c'est sûr que, bah, comme t'as cité. Wonder Boy, bah, c'est un jeu qui, pour les moins de 20 ans, ne peuvent pas connaître, je pense. En tout cas, c'est un jeu qui m'avait laissé des très très bons souvenirs sur la Game Gear. J'avais joué que sur cette console-là, mais reprendre un peu le concept d'évolution, enfin, en changeant de pouvoir, etc. C'est sûr que, bah, ça m'attire déjà. Plus, comme je l'ai dit, là, franchement, là, je sais pas ce que vous en pensez, mais les effets de lave et tout ça, ils sont très très beaux pour un jeu en 2D. Et, c'est sûr que c'est un truc qu'il faut suivre avec attention.
Dwayne?
C'est très beau, ça je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et après au niveau du gameplay, c'est vrai que quand t'arrives avec un Kickstarter et que tu mets déjà une belle vidéo de gameplay comme ça, ça donne déjà envie. Et au niveau du concept, ben voilà, je suis vraiment attiré. Après j'attends effectivement d'en voir un peu plus au niveau du gameplay. Et je pense que je vais backer d'ailleurs.
Par contre, faut bien avouer, hein, dans le fond, c'est ultra classique. Hein. Ce qu'on voit, je veux dire, ça réinvente pas l'eau chaude. Hein. C'est vraiment
ah oui, c'est
Wonder Boy pur jus.
Mais excuse-moi de te couper, mais il y a l'air d'avoir un petit peu d'humour quand même. C'est sûr que c'est pas très original, mais en tout cas, il y a quelque chose qui dit que ce jeu, il est sympathique et pourquoi pas.
Oui, non, mais je le précise pour les gens qui vont sur Kickstarter pour backer des projets qui sont originaux.
D'accord.
Parce qu'il y a des gens aussi qui ont, pour qui c'est un critère, et je pense que c'est important de le préciser. Voilà, c'est du Wonder Boy de chez Wonder Boy, quoi. C'est, vous ne vous attendez pas à autre chose. Mais en tout cas, c'est sûr que moi, ça m'intéresse, hein. Je veux dire, j'adore la direction artistique. Enfin, j'aime tout sur ce Kickstarter. Équipe qui avait déjà fait un projet, objectif financier que je trouve personnellement raisonnable, hein. Alors je crois que c'est 150 000 dollars, c'est ça ?
Oui.
Ouais, voilà, ouais. 150 000. Moi, je trouve que c'est pas beaucoup, parce qu'il faut bien voir qu'après, il faut convertir ça en euros, que t'as des impôts qui passent derrière, enfin bref. Concrètement, tu vois tout de suite différentes situations de gameplay, ils montrent les différents pouvoirs, etc. C'est très concret comme Kickstarter, et j'aime ça.
Ouais, c'est clair.
Donc voilà, je répète, ça s'appelle Flying Hamster 2. Et c'est sur Kickstarter. Donc, nous allons maintenant passer à la suite. Et nous allons parler d'un Kickstarter avec des zombies encore, mais des zombies dans un univers médiéval. Et ça s'appelle, oui. Dwayne?
Dead Crusade. Voilà, donc Dead Crusade, donc c'est un espèce de jeu en coop un peu médiéval. Ça va tourner apparemment avec l'Unreal Engine 4, donc déjà on est effectivement sur un jeu avec une qualité graphique qui sera quand même de haute volée, on va dire. On est vers le 14e siècle.
Pour résumer, ils ont pris un setting historique, hein, c'est la peste noire qui débarque en Europe, tout simplement. Sauf que là, au lieu d'avoir des morts partout, on en est morts vivants à la place.
Exactement. Donc après, le concept, c'est un RPG, on a du co-op avec la possibilité de tomber malade et de devenir à son tour un zombie.
Donc c'est, on précise que donc c'est vraiment un jeu coopératif, orienté coopération. Il y aura un mode solo, par contre, mais c'est vraiment un jeu qui, à la base, est orienté coopération de ce qu'ils disent. Et donc, comme tu disais, comme on parle de la peste, etc., on va pouvoir choper différentes maladies. Alors, ces maladies, en gros, ça se répartit en trois catégories, de ce que j'ai compris. D'un côté, t'as un truc classique, tu vois, qui va affaiblir ton personnage. Ensuite, tu vas avoir une maladie qui va te faire halluciner. Donc ça veut dire que tu verras des ennemis débarquer sur toi, tu vas taper dans le vide, etc. Et enfin, tu auras un dernier type de maladie qui, lui, sera incurable, sauf qu'il boostera ton personnage à fond, en fait. Et que, jusqu'à ce que mort s'en suive, ton personnage pourra bourriner. Donc en gros, ton rôle, quand tu sais que tu vas crever, ça va être d'être en avant, de prendre des risques à la place de tes coéquipiers, jusqu'à ce que tu crèves, quoi, en gros. Le concept, je trouve très intéressant, en tout cas. D'autant plus que c'est un jeu qui est basé, de ce que j'ai compris, un peu à la Dark Souls, sur le skill plutôt que sur les stats. Il n'y a pas du tout de GD, apparemment. Et ça, c'est... Moi, ça m'intéresse, en tout cas. Que ça soit basé sur le positionnement du personnage, sur le fait que telle attaque t'expose plus qu'une autre, etc. Ça me parle beaucoup.
On parlait un peu de Kingdom Come en off, c'est parce que moi je trouve que un peu au niveau du système de combat, on est un peu sur la même dynamique, et je trouve ça assez intéressant effectivement. Le combat à l'épée a l'air assez fluide, et l'Unreal Engine 4 a l'air quand même assez maîtrisé, même si on est sur de l'alpha. Donc oui, le concept a l'air assez intéressant. Après, ils sont encore un peu loin. Je sais pas si t'as le chiffre.
Honnêtement, ils ont pratiquement pas avancé. Hein.
Ouais, ils demandent 250 000, il me semble. Et donc voilà. Après, est-ce qu'ils vont y arriver ? Ça se pourrait. On voit en ce moment des Kickstarter qui remontent après quelques semaines.
Ouais, Planet Cube, dont on a parlé précédemment, dont on pensait qu'il allait se planter royalement, je sais pas ce qui s'est passé, d'un coup, le Kickstarter a...
C'est grâce à Gamarco, je pense, à mon avis.
A fait péter les compteurs. je crois qu'ils ont eu un reportage d'Arnold Life, donc je me demande si c'est pas ça, mais enfin, en tout cas, ça a été assez impressionnant à voir, hein. C'est la première fois que je voyais ça.
Ben, ça, c'est un plus petit, mais il y a eu Jet Gators aussi, que je regardais, enfin, qui demandait 50 000, enfin, et qu'il est remonté à 35 000, alors qu'il était vraiment mal barré au départ. Donc effectivement, il peut y avoir des remontées comme ça, donc c'est à voir.
Par contre, là où je suis plus dubitatif, c'est que le jeu devra pouvoir se jouer à la première, mais aussi à la troisième personne. Mmh. Et moi, j'ai peur qu'ils arrivent pas à gérer les deux correctement, en fait. Je pense qu'ils auraient dû faire un choix entre la première et la troisième personne. C'est pas du tout le même type de gameplay, quoi. J'ai vraiment peur que, déjà, au niveau des animations, etc., ça s'en ressente, en fait. Que ce soit pas agréable à jouer à la première personne ou et inversement. Donc, bon, j'attends de voir à ce niveau-là. Aussi, là où je serai un peu plus critique, c'est au niveau de la présentation de l'équipe. Concrètement, on ne sait pas qui travaille sur ce jeu, hein. Juste à part le mec qui dirige l'équipe et qui grosso modo, enfin de ce que j'ai vu sur son CV, parce que j'ai regardé un peu, j'ai vérifié, tu vois, grosso modo il a bossé sur un jeu et ce jeu il occupait pas un poste important, donc moi ça me, voilà, c'est, il y a quoi quand même être méfiant, même si je pense quand même que comme on a eu une grosse vidéo de gameplay quand même, faut le rappeler.
Ouais.
Ça peut compenser l'absence de CV, mais pour ceux qui chez qui c'est important, il faut le préciser, les mecs très clairement, ils sont pas du tout transparents sur leur background, quoi. Donc et ça, moi je pense que c'est aussi ça qui leur coûte, c'est que comme ils disent pas sur, exactement sur quel projet ils ont bossé, qu'ils disent pas exactement qui y a dans l'équipe, t'as beau mettre une vidéo de gameplay, les gens sont de plus en plus méfiants vis-à-vis du financement participatif, et je pense pas que tu puisses te permettre ce genre de choses. Et enfin, un autre reproche qui pourrait leur être fait, c'est que concrètement, on sait pas pourquoi ils ont besoin d'argent, en fait. D'habitude, il y a des projets un peu sérieux, tu vois, où ils détaillent un peu le financement, alors ouais. Ça, l'argent, il va aller là, il va aller là, il va aller là. Donc, aussi, pour les gens qui sont assez regardants sur ce genre de choses, méfiance. Donc, malgré tout ça, moi, je pense que c'est un projet que je vais backer, parce que, encore une fois, pour moi, une vidéo de gameplay, ça vaut tous les CV du monde. Mais c'est sûr qu'il y a de quoi quand même rester un peu dubitatif sur le plan de la transparence, quoi, on va dire.
Après, c'est bien aussi de donner sa chance aussi à... Parce que si c'est des nouveaux venus... Parce que pour moi, Kickstarter, c'est... Il y a aussi ça dans Kickstarter, c'est donner un coup de pouce aux gens qui n'ont pas vraiment fait quelque chose à part avant. Ça peut être leur première expérience, mais si les mecs...
Non, mais ATH, je suis d'accord avec toi, mais le problème sur ce Kickstarter-là, c'est qu'ils mettent en avant des projets sur lesquels ils ont bossé, et pas des petits projets, hein. Je veux dire Star Wars KOTOR, comment il s'appelle, Chivalry Medieval Warfare. Enfin, il y a plusieurs projets qu'ils mettent en avant sur la vidéo du Kickstarter. Mais en fait, comme ils mettent pas les noms des personnes qui sont sur le projet, moi je t'assure que ça crée la méfiance chez les gens, parce que les gens ils se disent à ce moment-là, ils sont en train de nous mentir, ils sont pas transparents, quoi. Et le manque de transparence sur Kickstarter, tu sais aussi bien que moi que ça te coûte de l'argent, parce que les gens sont méchants, hein, ils ont raison.
On a pu le voir. On a eu pas mal de cas depuis le début de Game Info, dont on a eu les retours de Kickstarter où il y a eu quelques litiges. Et c'est sûr que plus il y aura de gens qui seront occupés les autres, plus les gens seront méfiants. C'est logique après.
Surtout récemment, enfin on va pas revenir sur le père Oculus, mais on va dire que les gens sont de plus en plus regardants. Voilà. Donc, dans tous les cas, vous aurez compris que c'est un jeu qu'on attend, parce que, moi, je veux dire, un truc un peu à la Dark Souls, à la première personne, où il va falloir trucider du zombie, où il y a vraiment orienté coopération. En plus, l'ambiance du jeu, moi, enfin, j'adhère complètement à l'ambiance du truc. La direction artistique, bon voilà. Franchement, c'est un projet que je vais surveiller, le concept de maladie, tout ça. Enfin, en plus, c'est un jeu, si tu veux, qui reprend des concepts qui existent déjà. Hein. Je veux dire, ça ressemble très clairement à du Dark Souls. Mais à côté de ça, qui rajoute ses petites idées à lui. On l'a pas précisé, mais les zombies ne seront pas cons dans ce jeu. Ils chargeront, ils pareront vos attaques, ils essaieront d'exploiter vos faiblesses aussi. Donc, il y a pas mal de promesses au niveau du gameplay, déjà. Et aussi... ça parle un peu d'intelligence artificielle. Par exemple, le fait que les zombies de paysans, tu vois, si tu les défonces, ils vont pas rester là jusqu'à la mort, hein. Ils vont se tailler. Enfin, ils vont s'enfuir. Alors que par exemple, s'il y a un chevalier dans le lot, tu vois, il va un peu remonter le moral des troupes, quoi, on va dire. Et pour le coup, si un chevalier, ils resteront se battre jusqu'au bout, etc. Enfin bref. Donc ça veut dire que, par exemple, pour disperser un groupe, il faudra d'abord t'attaquer au chevalier. Une fois que tu auras tué le chevalier, ça y est, tu pourras monter tes gros muscles pour que les autres ils se barrent. Enfin, moi je trouve qu'il y a vraiment des idées qui sont intéressantes et j'attends vraiment de voir ce que ça va donner, quoi. Et j'ai peur que malheureusement ça n'arrive pas au bout, mais comme l'a dit Dwayne, On a eu quelques surprises récemment. On va maintenant parler de Voxel Quest. Alors, concrètement, Voxel Quest, déjà, à la base, c'est surtout un moteur, en fait. En fait, c'est un moteur de génération procédurale d'univers fantastique, on va dire. Je vous invite à aller voir la vidéo où le gars présente son moteur, parce que franchement, c'est très très impressionnant, je trouve, ce qu'il fait. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est quand il évoque l'intelligence artificielle, et surtout, comment générer une histoire en exploitant l'intelligence artificielle dans un univers généré aléatoirement où il n'y a aucune quête préécrite. Donc là, comme ça, ça a l'air complètement fou. Ce qui m'intéresse dans ce qu'il raconte, en fait, c'est comment, avec des règles simples, en fait, parce qu'on là, quand il présente la chose, on pourrait s'imaginer un truc ultra complexe, ultra chiadé, qui va générer des histoires, etc. Mais en fait, non. Justement, ce qu'il dit, c'est que l'ingéniosité de son système, en fait, c'est qu'il se base sur des règles simples et prédéterminées. C'est-à-dire que, déjà dans son jeu, il n'y a pas du tout d'aléatoire. Et ça influence complètement la manière dont l'univers va fonctionner. Dans cet univers-là, en fait, on va dire que tous les PNJ auront des besoins de base, quoi. L'un de ces besoins étant leur bien-être. Et du coup, ils vont chercher, par tous les moyens, à remplir ce besoin. Par exemple, le mec à la base, c'est un clochard. On va dire qu'il va se mettre à voler, tu vois, pour pour subvenir à ses besoins, ce genre de choses. Et ce système-là, ça va pousser les personnages non joueurs allaient jusqu'à faire des trucs genre aller dans un donjon pour récupérer un artefact et le revendre, tu vois. Et ce système là qui est assez intéressant se couple avec un autre système qui est un système de traits, en fait. C'est-à-dire que le mec est parti d'un constat. La plupart des RPG auxquels on joue se basent sur des stéréotypes de personnages. Le héros ténébreux, le héros malgré lui, le mentor, genre Obi-Wan Kenobi, ce genre de choses. Ce qu'il fait, c'est que en combinant ces traits de personnages avec les besoins qu'ils doivent remplir, ça crée des histoires, en fait. Parce que en fonction des traits que le personnage va avoir, par exemple, moi, je suis Frodon Sacquet, je suis pas le hobbit le plus courageux du monde, quoi. mais je dois aller me débarrasser de cet anneau. Mais bon, on va dire que je vais pas y aller en mode super guerrier et que je vais tuer tous les PNJ qui sont sur mon passage, quoi. Je vais essayer d'être discret, etc., de mettre l'anneau quand je suis dans la merde. Enfin, vous voyez. Donc, en combinant les traits de personnalité avec le fait de devoir remplir les besoins basiques de la vie des personnages en question, bah tu crées des histoires, quoi. Moi, je trouve son système très intéressant, et je le trouve d'autant plus intéressant qu'il paraît crédible par rapport aux mécaniques qu'il propose. ATH.
C'est sûr que sur le papier, le concept est alléchant, mais si chacun doit remplir un certain objectif et tout ça, bah j'ai peur que au fil du temps, bah ça a du mal à suivre et que ça crée pas mal de bugs si tout doit être géré. Après, j'espère que en tout cas son algorithme est bien rodé, quoi. C'est parce que sinon tu peux te retrouver avec des situations assez cocasses, et en général les gens ils apprécient pas trop quand un jeu il y a certaines choses qui sont promises et finalement ça fonctionne pas très bien.
Dwayne?
Non, moi je trouve vraiment ses arguments très intéressants, surtout avec le travail sur les PNJ, c'est-à-dire vraiment garder quelque chose de très organisé, ne pas laisser de place à l'aléatoire pour au final créer vraiment des situations réalistes par rapport à l'intelligence artificielle. Donc après effectivement la façon dont il l'évoque, même s'il l'explique bien, il faut prouver, quoi, à voir si ça fonctionne vraiment. En tout cas, ça me paraît quand même quelque chose d'assez réalisable, même si au départ on peut trouver ça vraiment vraiment énorme comme concept, quoi.
Je vous incite à aller voir la vidéo où il parle de son moteur aussi, parce que les deux vont ensemble. C'est vraiment très très impressionnant ce qu'il montre déjà. Enfin, moi, ça m'a impressionné. Et je trouve ça d'autant plus intéressant qu'il précise bien que le jeu sera ouvert au modding et que normalement, on pourrait assez facilement ajouter des routines à l'intelligence artificielle, de nouveaux traits de personnalité, ce genre de choses. Et ça, je trouve ça très 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 intéressant. De toute façon, on pourra juger sur pièce, vu que il a l'intention de sortir, je sais plus si c'est l'alpha ou la bêta, vers la fin de l'année. Donc on verra bien. On jugera sur PS, n'est-ce pas? Ouais. Parce que c'est bien beau les promesses, mais il faut voir le concret, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Donc, on va maintenant passer à la séquence Nintendo. Hein. Voilà, donc, ATH, toi qui es possesseur de Wii U, hein, c'est toi qui vas t'y coller, hein, parce que, voilà.
Vous l'aurez compris, il n'y a pas beaucoup de news.
Nous, je veux dire, on mange pas de ce pain-là, donc, on va laisser, le seul possesseur de Wii U se dépatouiller avec ça.
Dwayne
en a acheté une aussi.
Mais non, mais j'en ai.
On est en super réalité.
Oh mon Dieu, les mecs, vous me faites honte. Franchement, vous me faites honte.
Bah, attends, on s'amuse dessus, c'est bon.
On va parler de Mario Kart. Et ensuite, on parlera du Nintendo Direct. Je sens que vous attendez avec impatience. Alors,
ah ouais.
Mario Kart, déjà, what's up?
Déjà, je tiens à faire une déclaration publique. Qui c'est qui m'a mis l'anus sur Mario Kart et Super Smash Bros? Je ne voulais pas la traiter. Mais, pour parler de Mario Kart, alors le nouveau de Mario Kart, c'est que... on a des nouveaux items, dont la la plante piranha qui croque les ennemis à proximité. On a un boomerang, en gros, qui fait presque la même chose que la carapace rouge, si j'ai bien compris. Voilà, quand tu voles avec ton kart, tu peux tout noyer et attaquer les ennemis. C'est super, c'est cool. Super Smash Bros, Nintendo Direct spécial Smash Bros, le 9 avril à minuit. Je sais pas si vous attendez quelque chose de super cool, mais voilà, c'est passionnant. Moi, j'irai dormir.
Bah, ça va être comme la news OSEF de Mario Kart que tu viens de faire, là, en fait.
Voilà, hein, non, mais c'est les deux, ça... c'est deux news OSEF, c'est des news où je n'ai rien à foutre, quoi. C'est juste pour parler de Nintendo, alors qu'il y a rien à dire là-dessus. Nintendo Direct spécial Smash Bros, 9 avril à minuit, qu'est-ce qu'on va savoir de plus? Un nouveau personnage, et puis c'est tout!
Attention, tu veux dire que tu ne faisais pas partie, des gens qui étaient, absolument ravi que Cranky Kong participe au casting. Tu me déçois, t'es
là. Ah ouais, pendant les VGX, moi c'était mon moment, vraiment, le plus grand moment.
J'ai eu
quoi.
Honte pour Nintendo à ce moment-là. Je me suis dit, putain, mais...
Ah ouais, c'était dur, surtout, c'est Reggie Fils-Aimé qui arrive pour annoncer ça, quoi. Le mec, il se déplace.
Le mec, il a un beau sourire, mais... On s'en fout de voir sa gueule, quoi. Tu pouvais très bien le faire sur YouTube. Voilà, nouveau DLC, Cranky Kong, enfin, nouveau personnage jouable dans Donkey Kong, Cranky Kong. Ça aurait été mieux passé que une annonce spéciale au VGX. Si on a, ils annoncent Nintendo Direct. De toute façon, je m'attends pas à grand chose. Hein. Ça va être une annonce de la même Ekabi, avec un nouveau personnage. En plus, ça, je suis sûr, si c'est un personnage tout pourri de l'univers Mario, super cool, quoi. Encore, tu m'annonces on va dire. Pour exciter un petit peu les fans d'une autre licence, je sais pas, tu vas annoncer un personnage d'une licence qui appartient pas à Nintendo, ça pourrait faire quelque chose, encore un petit mini buzz, mais c'est pas...
Oh, mais sérieux, on s'en fout.
Voilà, tout
quoi,
à fait, voilà, enfin... on s'en fout, on a rien à foutre, mais c'était juste pour en parler.
Non, mais moi, ça me fait toujours marrer, les Nintendo Direct, je sais pas.
Please
c'est...
take a look. C'est... Waluigi.
C'est toujours vraiment marrant. Après, au moins qu'on ait une date, ça serait pas mal. C'est déjà si on a une date pour moi, c'est.
Bah s'il y a une date,
c'est déjà.
Je pense que s'il y a une date, il devrait y avoir, ça serait plus ce genre d'événement annoncé à l'E3 pour un des seuls gros jeux de la Wii U, quoi, pour la mettre un peu en avant, la pauvre. Mais sinon, c'est triste, quoi. Nintendo, les mecs, réveillez-vous, je sais pas. C'est
Nintendo. deux petits points, la tristesse.
Voilà, donc en fait, c'est un cri du cœur, vous l'aurez compris. Nintendo, des vraies news, s'il vous plaît, merci.
Merci, réveillez-vous les mecs.
D'ailleurs, à propos de News OSEF, Dwayne, ne t'en va pas là. Attends, c'est pas fini. C'est quoi le truc d'Amazon là?
Alors, non, c'est juste un truc qui m'a fait marrer parce qu'en fait, je regardais, t'as la présidente de Ouya, donc Julie Herman, qui a fait une déclaration genre oui, nous sommes concentrés sur le gaming, pour nous le gaming ce n'est pas un bonus en plus, en référence en fait à la sortie de l'Amazon, Box TV, donc Amazon Fire TV. Et en gros, ça m'a fait marrer parce que t'as une espèce de guerre des losers, quoi. C'est-à-dire, oui, on est con. Je veux dire, t'as trois PK qui ont la Ouya, t'en as deux qui en sont plus ou moins contents. Et voilà, ça m'a fait marrer parce que c'était vraiment dur, quoi. Encore une fois, comme Nintendo, la tristesse, je veux dire, pour Ouya en train de se battre contre un périphérique. qui fait le jeu. En gros, parce que Amazon, ils te sortent une espèce de box, donc la Fire TV, c'est voilà, on a effectivement la box avec des services, donc c'est plus intéressant pour les États-Unis parce que t'as des services comme Netflix, Hulu+, avec les séries,
ouais,
les services Amazon.
Sauf que
et
la Xbox
côté,
One le fait déjà, ça. Je précise.
Voilà. Et à côté, on a des histoires, enfin, on a effectivement cet aspect petite console Android. Et t'as Ouya qui monte au créneau pour dire oui non mais nous sommes concentrés sur le jeu. En gros ils se battent contre quelqu'un qui en a rien à foutre du combat quoi. C'est un peu comme dans les dessins animés quand t'as le petit mec qui se bat contre le grand et puis il met sa main et puis il se dit mais qu'est-ce qu'il veut quoi. C'est la tristesse.
Et est-ce qu'elle a déclaré des nouveaux jeux à venir sur Ouya? Je sais pas parce que le catalogue n'a pas l'air très fourni quoi.
C'est ça qui est triste, c'est que oui nous sommes concentrés sur le jeu, sauf que niveau jeu, qu'est-ce qui arrive? Ah merde. Oui c'est vrai. Attendez je reviens.
D'ailleurs aussi Amazon a racheté le studio d'Ubilix qui a fait Killer Instinct, je crois, c'est ça?
Oui voilà, la seule petite lueur d'espoir qu'on a sur l'Amazon Fire TV, s'il faut en avoir une, c'est qu'ils ont effectivement racheté DoubleHelix qui avait fait donc le Killer Instinct et aussi donc voilà, voir ce qu'ils vont pouvoir faire avec Amazon.
Mais sérieux, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent avec ce machin quoi? Il y a rien dans cette console, enfin c'est même pas une console, c'est comme tu dis, c'est une box. En termes de puissance de calcul, etc., il y a que dalle dessus. Tu veux qu'ils fassent quoi? Alors peut-être qu'ils feront des super jeux dessus, je dis pas, mais qui va acheter le truc pour ça quoi? Enfin voilà, aucun intérêt. Donc, comme tu dis, faudra faire un article sur ça. Ça s'appellera la guerre des losers et ça remplacera la guerre des consoles. Ça a l'air pas mal. Je retiens l'idée, hein, Dwayne. Allez, on va passer aux choses sérieuses ou pas. Donc le président de Square Enix qui s'est réveillé après 15 ans de coma. Bon, je sais que j'exagère, 10 ans. Et qui s'est dit qu'il serait peut-être temps de refaire des jeux pour les gamers. En gros, c'est ça, hein, je veux dire, qui fait une déclaration d'amour aux gamers, etc., alors qu'une semaine avant, il annonçait se concentrer sur le mobile, etc. Donc voilà, vous en pensez quoi? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Non, parce que là, franchement, ça fait penser un peu comme les déclarations d'amour de Microsoft au PC, alors qu'ils osèvent total. Je veux dire, ça fait des années qu'ils font plus rien sur PC. Alors, là, ça fait un peu le même effet chez Square Enix, tu vois, c'est les mecs qui te font des déclarations d'amour aux gamers, alors que par exemple, l'un des plus gros titres gamers qu'ils ont sorti ces dernières années, alors, à savoir Final Fantasy Type-0, il n'a jamais débarqué aux États-Unis ou en Europe, tu vois, c'est les fans qui sont en train de le traduire, là, qui font leur taf à leur place. Bon. Je suis mauvaise langue, il paraît que le dernier Final Fantasy XIII est très bien. Bah, ça fait partie de la stratégie de reconquête de Square Enix. Malheureusement pour eux, ils ont tellement flingué la série à la base que ça marche pas. Donc, Alors, est-ce que vous y croyez ou pas déjà?
Ça me fait penser un petit peu au discours des hommes politiques. Et quand tu vois que tout ce que se mange en Hollande dans la gueule, tu dis que je pense pas que je vais refaire confiance pour voter à ce type-là. Bah, Square Enix, c'est un peu la même chose en fait. Pourquoi une telle déclaration? C'est que ils se sont rendus compte que Bravely Default, il avait très bien fonctionné aux États-Unis et en Europe, et que c'était un jeu à la base destiné au marché japonais, et que c'était un jeu plutôt core gamer quoi.
Bah disons que c'est pas un projet qui a été pensé pour marché international quoi.
Et voilà, et le jeu il a plutôt bien vendu et plus qu'ils espéraient. Et là ils se sont dit si on se concentrait plutôt sur ce type de jeu-là, et plutôt que essayer de violer la licence Hitman en essayant de la casualiser, eh bah, on va essayer de faire des choses, parce que Hitman Absolution, c'était un jeu vraiment destiné à une niche, et on a essayé de la rendre pour grand public, mais le jeu s'est pas très bien vendu.
Je note au passage qu'il a fait un mea culpa sur Hitman Absolution, ce qui est quand même assez unique, hein, tu reconnaîtras, je sais pas tous les jours qu'une boîte reconnaît qu'elle a fait de la merde sur un jeu.
Voilà,
hein,
c'est sûr que, bah, quand tu joues à Hitman Absolution et Hitman Blood Money, il y a un monde entre les deux. Ça ne veut pas dire que Absolution est mauvais, mais quand t'es un joueur qui apprécie une licence pour ce qu'elle apporte et en général, et quand t'achètes une nouvelle licence, c'est pour avoir quelque chose de nouveau, et quand tu joues à une licence qui est sur plusieurs suites, bah c'est pour te retrouver un peu le gameplay des anciens épisodes, et pas que ça change radicalement. Et là, c'est ce qu'ils avaient fait, l'erreur avec Hitman Absolution, et donc le jeu, les vrais fans, soit ils l'ont boudé, soit il y en a qui ont plutôt apprécié, mais qui ont critiqué certains points, mais en gros, c'était un bordel. Et là, ils se disent que, bah ouais, bah si on fait des jeux pour les gens qui passent plus de temps à jouer à des vrais jeux que à Casual Candy Crush, etc. Et bah peut-être qu'on vendra plus si on cible ce genre de gens. Les mecs, ils se rendent compte de ça après la guerre, quoi. Ils nous ont essoré pendant la génération PS3 360 et les mecs, ils se réveillent que maintenant, en fait.
Ouais, c'est clair. Non, mais de toute façon, je pense qu'il y a quand même, c'est quand même honnête de leur part. C'est-à-dire que là, ils partent d'un constat qui est financier. Donc, lorsqu'on part d'un constat financier, bah, à côté, ils vont faire tout ce qu'il faut pour faire plus de thunes. C'est-à-dire qu'ils ont vu que les anciens Hitman fonctionnaient. À côté, ils ont essayé de toucher un plus grand public. Ils ont vu qu'ils étaient plus forts en atteignant une niche. Mais c'est-à-dire que cette niche apprécie le jeu et en parle autour d'elle. Et à côté, ça vend plus. Donc voilà, ils se rendent compte que ce modèle marche mieux. Et s'ils l'appliquent, enfin, je pense qu'ils vont essayer de l'appliquer et qu'on aura des jeux plus poussés, on va dire, d'un point de vue du gameplay, quoi. Donc ça reste quand même une déclaration honnête et assez intéressante, même si effectivement on peut douter de la sincérité des propos.
Oh, quoi que t'as raison, hein, si ça, on parle de pognon là, c'est d'être sincère en fait. Hein.
Bah oui, j'ai envie de dire, si le truc marche moins bien et qu'ils se disent en étant hardcore on vend mieux, enfin en étant plus en poussant un peu plus le gameplay, on va vendre mieux. Donc je pense que ça reste honnête. Vu qu'ils vont se faire plus de blé en faisant quelque chose de plus hardcore. Donc voilà.
Écoute, on ne peut que souhaiter que ce soit vrai, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, Square Enix, hein, portage de Final Fantasy Type Zero sur Vita, s'il vous plaît, traduit. Non, parce que voilà, laissez les fans faire le taf à votre place, c'est juste pas sérieux, quoi. Enfin, voilà.
Je pense que s'il devrait sortir, ça serait, il faudrait que Sony allonge un petit peu d'argent pour se payer le portage sur Vita, qui manque un peu de jeu.
Bon, on va maintenant passer à notre jeu du moment. C'est un jeu next-gen, c'est exclusif à la PS4, il me semble,
oui.
Et ça s'appelle Infamous Second Son.
Hey! Hey! You guys need any help? It's one of those freaks! Whoa! No! Oh, this fast healing stuff is gonna come in real handy.
Alors, ATH, Infamous Second Son, contrairement à ce qu'indique le titre, ce n'est pas le second épisode, mais c'est le troisième. On quitte le héros de la série, n'est-ce pas? C'est, comment il s'appelait déjà? C'est Cole, je crois.
Cole Malbrun.
Ouais, voilà. Donc, Cole n'est plus. Et il est remplacé par un jeune homme à capuche, n'est-ce pas?
Non, bonnet.
Outre le fait que, franchement, dès que je l'ai vu, j'ai envie de lui mettre des tartes. Est-ce qu'il est intéressant, déjà, le nouveau personnage? Et bon, est-ce que dans le fond, déjà, on s'en fout pas un peu, tu me diras. Et est-ce qu'il y a de vraies nouveautés dans le jeu, tout simplement?
Alors, de vraies nouveautés, non. Voilà, c'est... Ah. Bah, non, bah, c'est...
Ah, t'as ta cache comme ça?
Non, mais je vais être clair et net, c'est que je vais pas dire que le jeu justifie l'achat d'une PS4. La nouveauté, c'est juste les graphismes qui sont... tomber par terre, mais sinon, si t'as joué aux anciens épisodes, bah, il y a pas grand-chose qui change à part les nouveaux pouvoirs. Et puis voilà, c'est tout. C'est t'as le même jeu en plus beau et bah t'as le gap de la nouvelle génération, c'est tout quoi.
Est-ce que tu peux nous présenter quand même le gameplay un peu pour les novices qui ne connaîtraient pas la série?
Bah alors, Infamous, c'est une licence de super-héros. T'as des capacités qui te permettent de te déplacer beaucoup plus vite. De limite de t'envoler, enfin plus tu avances, plus tu vas avoir des nouvelles capacités, plus tu vas monter en puissance, plus le jeu va être jouissif. Et puis c'est ça en fait le gros intérêt du jeu, c'est que t'as un mec qui commence à, comme c'est un nouveau héros en plus, bah tu vas apprendre à utiliser ses pouvoirs un peu en même temps que lui. Et puis à partir de ce moment-là, bah tu te fais plaisir, tu t'amuses dans un peu dans la ville à soit à tout détruire, soit à jouer le héros un peu boy scout en défendant la veuve et l'orphelin.
Parce qu'on précise que c'est un jeu open world.
Ouais, c'est un sandbox. Le point fort du jeu, c'est vraiment son gameplay. C'est vraiment un jeu vidéo fait pour les joueurs. Et limite, tout ce qui est à côté, histoire, etc., bah, ça passe un petit peu au second plan. Mais si tu aimes les jeux de super-héros, etc., c'est un jeu que je pense qui pourrait vous faire plaisir.
Juste, je précise, il me semble que dans les anciens opus, alors j'ai pas joué aux deux, hein, donc je ne sais pas s'ils avaient changé, mais en tout cas dans le premier, c'était juste le pouvoir électrique que tu faisais évoluer. Est-ce que dans le 2, il y avait déjà eu des changements à ce niveau-là ou pas?
Ouais, parce que en fait, dans le premier, c'est t'avais juste l'électricité. Dans le deuxième, t'avais soit l'électricité, soit la, enfin t'avais l'électricité plus en substitut, t'avais soit la glace, soit le feu, en fonction des choix que tu faisais dans le jeu. Delsin, lui, son pouvoir en fait à lui, c'est d'absorber le pouvoir des autres. Et alors que Cole, c'était vraiment l'électricité. Et donc là, t'as le pouvoir de la fumée. Et après, tu vas avoir en fait un nouveau pouvoir qui est le pouvoir du néon, qui te permet de courir un peu comme Flash, courir super vite, etc., de courir sur les murs. Et ça va t'apporter un nouveau gameplay, un nouveau pouvoir. Puis t'as d'autres pouvoirs à débloquer que je vais pas spoiler. Mais juste pour vous dire que le quatrième pouvoir est tout pourri. Parce qu'on le débloque genre les 5 dernières minutes du jeu. Et puis après une fois que t'as fini le jeu, tu peux l'utiliser. Mais c'est vraiment de la merde. Mais sinon, à part ça, c'est sûr que quand tu fais les missions secondaires qui sont, mais elles sont répétitives, mais c'est vraiment la mort, quoi. Le jeu, il est bloqué en plusieurs quartiers. Et pour débloquer ces quartiers, tu fais toujours les mêmes missions, en gros. T'as des missions toutes banales comme taguer sur les murs pour montrer que t'es un rebelle.
Juste ce dont t'es en train de parler là, ça fait partie de la quête principale ou c'est des missions secondaires?
Non, ça c'est des missions secondaires.
Ah ok, d'accord.
Ouais. Et de toute façon, la mission principale en elle-même, elle est pas plus intéressante parce que il faut que je bute le méchant. Alors pour buter le méchant, il faut que je développe des nouveaux pouvoirs. Donc en gros, c'est j'absorbe les nouveaux pouvoirs. Et une fois que j'absorbe tous les nouveaux pouvoirs, je vais aller péter la gueule au nouveau méchant.
Bah en gros, l'histoire c'est comme pour le premier, quand on s'en fout toujours autant.
Non, je pense que le premier, franchement, elle était mieux amenée. Il y avait des trucs.
Ouais, mais c'était ultra classique.
Oui,
je veux dire, c'est du super héros. T'as lu un comic, t'as tout vu dans le jeu, quoi. Je veux dire.
Mais il y avait des trucs qui étaient faits. En plus, là, c'est vraiment. C'est encore plus basique, si tu veux, que le premier. Et en plus, ça, le héros, comme t'as dit, t'as envie de lui mettre des claques, et franchement, je te comprends.
Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il a un peu plus de charisme? Non, c'est vraiment la tête à claque, il évolue pas pendant l'aventure.
Non, c'est le héros, en fait, ils sont partis du principe, c'est le mec, qui a des nouveaux pouvoirs, c'est un jeune con. Et qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il s'amuse et puis il est content à chaque fois qu'il a un nouveau pouvoir. Il fait « Ah, trop cool, lol, allez, je vais courir sur les murs et regarde frérot ce que je peux faire maintenant. Ils sont où les méchants? Dis-moi où est-ce qu'il y a des méchants, je vais aller leur péter la gueule. » Et ça a pas changé plus que ça au fur et à mesure du jeu. Et après, il y a 2-3 trucs qui se passent scénaristiquement. Mais bon, au moment où c'est arrivé, quoi, j'avais envie de rigoler parce que c'était... genre, tu sais, c'est comme dans les films, quand il y a un héros qui va tomber... l'autre il attrape la main et tu vois il faut pas que ça lâche, et si ça lâche et il va pleurer, enfin tu vois ce genre de truc là quoi.
Ouais, non, mais... ATH, j'espère que t'es conscient que là t'es en train de nous refaire le coup du test de Castlevania, bon en moins pire, mais
non mais oui.
Tu donnes pas envie là, hein.
Ah je suis tout à fait honnête avec les gens, je vais pas lui dire ouais le jeu c'est l'histoire c'est un truc de malade et tout ça, et le mec il va jouer il va dire putain mais c'est foutu de ma gueule ATH là dans Game Info.
En gros c'est si j'ai bien compris, si vous avez aimé les précédents et que ça vous dérange pas de pas avoir beaucoup de nouveautés, en gros allez-y, mais sinon passez votre chemin quoi.
Ah ouais, mais tout à fait, si vous avez pas aimé le premier ni le deuxième, passez votre chemin sur celui-là. Si c'est pour les graphismes que vous jouez, ça va vous plaire 5 minutes et après vous allez abandonner vite fait parce que la formule n'a pas évolué. Les quêtes sont très répétitives, mais après les points forts comme je l'ai dit c'est vraiment le gameplay, les nouveaux pouvoirs que tu débloques, etc. c'est pas mal, mais sinon c'est du Infamous tel qu'on l'a connu. Et n'allez pas vous penser que c'est parce que c'est sur PlayStation 4 que ça révolutionne la série. Ceux qui disent ça c'est totalement faux. Après moi j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer, j'ai vraiment pas mal aimé, j'ai fini le jeu en héroïque, là je vais le refaire en infâme et ça me dérange pas. Et d'ailleurs le jeu il est assez court pour le terminer, surtout si vous faites
combien,
on va dire une dizaine d'heures en faisant les missions secondaires en première run, donc si tu fais pas les missions secondaires je pense que tu peux finir en 4-5 heures, tu vois.
Ah oui, j'avais pas entendu en faisant les missions secondaires. Ah ouais,
voilà, là, c'est...
Ah oui, quand même. C'est une journée ton jeu en fait. C'est...
Mais bon, ouais, comme je l'ai déjà dit à des gens qui critiquent la durée de vie, ça fera toujours plus de 10 MGS Ground Zero. Hein. Donc si vous avez un jeu dans lequel investir, pencher plutôt sur Infamous, car déjà tu peux le refaire deux fois en, on va dire, avec le côté infâme. Ça change juste un petit peu les pouvoirs et la skin du héros. Ça, c'est la durée de vie artificielle, on va dire, un peu pour ceux qui se concentrent vraiment sur un premier run. Mais c'est sûr que, voilà, il y a des gens qui, je comprends, qui ils voient les trailers, ils se disent, putain, le jeu, ça a l'air d'un truc de ouf. Et qui jouent, bah, ils disent, en fait, c'est la même chose que l'ancienne Famous. Et qui peuvent être déçus. Moi, c'est pas mon cas, j'ai plutôt bien aimé, mais c'est sûr que vous attendez pas quelque chose de révolutionnaire. Après, ça reste un jeu sympathique.
Juste une question. Tu parlais du pouvoir de Néon, notamment. Est-ce que ça veut dire que, du coup, les déplacements sont beaucoup plus dynamiques qu'avant? Parce que moi, c'est quand même un reproche que je faisais. Je trouvais que le jeu était quand même assez mou au niveau des déplacements, par exemple.
Alors, les animations, il faut savoir que, vraiment, il y a eu un effort fait sur les animations, parce que Cole, il avait des animations un peu rigides. On dirait que c'était un robot. Et là, c'est vraiment bluffant. En même temps, on s'attend vraiment, quand on est sur PlayStation 4, un truc exclusif, on s'attend vraiment à un niveau de qualité. Là, c'est sûr que le contrat est fait. Et les déplacements, là, c'est vrai, tu peux traverser la ville en deux minutes avec les nouveaux pouvoirs. Ça, t'as vraiment des déplacements ultra, ultra intuitifs, ultra speed. D'ailleurs, moi, mon préféré, c'est celui du néon, parce que de courir comme ça sur les murs, de courir un peu ultra rapidement à la flash, bah, c'est... Tu vois, ça fait plaisir.
Ça fait un effet un peu prototype, non, dans le fait de courir sur les murs et autres.
Prototype en réussi, quoi.
Voilà. Ça, c'est que c'est vraiment un prototype réussi. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que il faut le prendre comme un jeu de, vous savez, un jeu de première gen de la console. Sur PlayStation 3, on a eu The Last of Us. Si tu t'attends au même niveau de qualité en termes de tout ce qu'il y a à côté, les gameplay, profondeur d'histoire, etc. C'est clairement pas le cas. C'est un très très bon jeu de première génération, un bon jeu pour ceux qui ont une PS4 et vu qu'il n'y a rien à se mettre sous la dent, je pense que ça leur fera plaisir. Mais comme je le répète depuis tout à l'heure et je le rabâche, faut pas s'attendre à la révolution.
Ok. Bon ben du coup,
je conseille quand même.
À faire pour les amateurs de la série, pour les amateurs de super-héros.
Voilà,
quoi.
C'est ça.
Ouais.
Ok, bon, on va faire un petit point culture, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter.
Non, c'est bon, vas-y.
Si vous avez moyen de jouer un petit peu au jeu avant de passer à la caisse, faites-le quand même, parce que sinon, il risquerait d'avoir quelques retours pas très positifs, on va dire.
Voilà, donc, alors c'est un point culture qui va pas être très long, hein, parce que c'est une série qui est en cours de parution au Japon, qui n'est même pas sortie en France d'ailleurs, et qui sera assez, je pense qu'il sera assez courte, parce que c'est une habitude de l'auteur, si vous voulez, de faire des séries qui ne sont pas très longues, c'est justement ce que j'apprécie chez cet auteur-là. Donc cette série, ça s'appelle Haruo Sumente, donc c'est un manga. Ça se passe dans un univers fantasy, enfin fantasy, disons médiéval plutôt, on va dire. Médiéval avec on va dire des un peu de fantastique, etc., quoi. Vous suivez un certain Reguna, Reguna qui en fait est un devin. En fait, c'est un devin qui est le devin personnel d'un roi. Sa famille est lié à la royauté depuis des générations et des générations, et en gros le rôle de ce devin là bah c'est de tout faire pour protéger le roi grâce à ses prémonitions. Ce Reguna qui a également le surnom de Ange, ça veut tout dire sur le personnage, n'est-ce pas, va un beau jour se réveiller après avoir fait un rêve qui se terminait par cette exclamation, n'est-ce pas ? Meurs ! Bon, voilà, ça veut tout dire, hein. Okay. C'est le genre de prémonition, tu vois, quand tu les as, tu dis, ah, ça va peut-être être la merde, là. Ça va peut-être se passer quelque chose, là, bientôt.
Surtout quand t'es devin.
Je me bouge un peu. Voilà. Donc, son souci, c'est que, ben... Il a pas plus de précision que ça, quoi, le pauvre homme. Ah ouais, t'es gentil, rêve, mais meurs, là, comme ça, ouais, qui, que, quoi, dans où. Enfin, bref, il se doute que c'est lié à son roi, mais d'ailleurs, est-ce vraiment lié à son roi?
Mystère.
Donc voilà, il a eu cette prémonition, mais il a besoin de précision. Alors, qu'est-ce qu'il va faire pour avoir plus de précision? En fait, il va se renseigner. Il se trouve qu'il y a un super rituel de la mort qui tue qui va lui permettre de découvrir en fait l'identité de la personne qui prononce cette phrase. Sauf que pour faire ce rituel, en fait, il va devoir se rendre dans ses rêves, communiquer avec une espèce d'entité dont je ne dirai rien pour ne rien spoiler, et avec cette entité, en gros, il va devoir poser des cartes de tarot sur une table, chaque carte correspondant à l'une des personnalités qui entourent la cour royale. Le problème, c'est que déjà, si ce foire, a priori, il va crever. Ouais, parce qu'il rigole pas, le rituel, hein. Et en plus, son autre souci, c'est que le mec, il est pas spécialement, comment dire, c'est pas quelqu'un qui est spécialement porté sur les relations humaines, quoi. Enfin, c'est, voilà, c'est quelqu'un qui est pas très physionomiste, il est un peu candide sur ce genre de sujet-là, donc, bon. On va dire qu'il ne cerne pas très bien les personnalités qui l'entourent, quoi. Donc, du coup, ça va lui mettre plus de temps que prévu pour réussir son rituel. Puis, de toute façon, je veux dire, jusqu'à ce que le meurtre se déroule, il n'est pas obligé de tout faire tout de suite. Hein. L'entité lui précise bien qu'il peut prendre tout son temps. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à enquêter sur son entourage. Alors, ce que moi, j'ai trouvé fascinant dans cette série, c'est ce point de départ-là, en fait. Parce que l'auteur a eu l'idée très intelligente de choisir un personnage candide, comme le lecteur, et ce personnage candide, tout comme le lecteur, va fouiller dans la merde et il va commencer à découvrir des histoires qui datent même de quand il était gamin et quand il y avait encore son père qui était vivant. Et qui va découvrir certaines choses sur son père, etc. Enfin bref, c'est en fait, si vous voulez, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans ce manga, c'est le contraste qu'il y a entre l'image de départ, si tu veux, qui est l'image d'un royaume idéal avec un roi qui semble très apprécié de ses sujets, etc., qui est entouré d'une cour, si tu veux, où les gens ont l'air de bien s'entendre, ce genre de choses. Et puis quand le mec commence à fouiller un peu dans la merde, tu découvres en même temps que lui que tout n'est pas si rose, en fait, et que les gens qui ont l'air sympas, très avenants au premier abord, il y a peut-être pas forcément des connards, si tu veux, mais des gens qui ont un mobile en tout cas pour commettre un meurtre. C'est un manga d'enquête, si tu veux, dans un setting médiéval, avec un peu de fantastique comme ça, où le gars a des flashbacks sur le passé, où il revoit les événements qui sont passés quand il était gamin, etc., avec son père, et où t'as l'intuition que c'est ce qui va se passer maintenant, là, c'est lié à ce qui s'est passé il y a 10 ans, en fait. Enfin, voilà, il y a vraiment une histoire d'enquête, et c'est une histoire qui est très axée sur les personnages, et j'ai énormément apprécié ça, quoi. Parce que voilà, sous le masque très avenant, comme ça, tu découvres petit à petit tous les personnages qui entourent cette cour, toutes les histoires très personnelles qu'ils ont chacun d'entre eux, et qui pourraient justement constituer un mobile par rapport au fait de tuer quelqu'un, quoi. Sont pas forcément tous des tueurs, tu vois. Tu découvres aussi des histoires tragiques, etc. Mais voilà, enfin, il y a des personnages vraiment très intéressants qui sont développés, et c'est ça que j'ai trouvé. Enfin, c'est passionnant à suivre, d'autant plus que l'auteur raconte très bien son histoire, quoi.
Ok. Et tu suis vraiment un seul personnage, en fait.
Pour être précis, en fait, tu le suis dans son enquête, quoi. Alors des fois, il y a des flashbacks, en fait, où tu le vois pas du tout lui, où tu vois son père. En fait, c'est l'auteur qui t'explique comment on en est arrivé là, quoi. Mais c'est vraiment lui qui, au cours de son enquête, en fait, on lui raconte son histoire, on lui raconte ce qui s'est passé il y a 10 ans, quoi. Sauf que ça revient par flashback, en fait, où là, pour le coup, le héros est pas du tout dans l'histoire, quoi. Mais on voit ce qui se passe, etc. C'est vraiment ça que je trouve très intéressant. Il y a une méthode de narration qui est vraiment très travaillée. Et justement, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est le fait de lier ça au tarot, quoi, si tu veux. Son enquête, en fait, ça consiste à lier le symbolisme du tarot avec la personnalité des différents protagonistes qui l'entourent. Il part sur des a priori, tu vois, sur certains personnages, etc. Ou par exemple, il y a un personnage dans le manga qui a l'air un peu con, tu vois. Il se dit que c'est peut-être le bouffon parce que le mec, c'est un peu un rigolo, qui fait un peu n'importe quoi, qui est un peu useless. Mais en fait, en creusant, il se rend compte que le gars est peut-être beaucoup plus manipulateur que ce qu'il pense. Enfin bref, il y a vraiment... tu creuses la personnalité des différents personnages et le manga est axé uniquement sur ça. Ça plus la phase d'enquête, moi ça m'a passionné. Et franchement, alors le manga pour le moment, il est en est à 4 volumes. Il faut savoir que c'est vraiment un auteur qui est enfin une auteure, je précise parce que c'est une femme hein, qui est derrière ce manga qui est très axé sur les mangas assez courts quoi, des one shot ou ce genre de choses.
Ouais. Et donc je suppose par contre que ça va assez vite en
voilà,
fait.
Voilà, chaque volume en fait l'histoire avance, tu découvres un nouveau personnage.
Ouais. Il n'y a pas de lenteur, voilà. Un peu de flashback inutile.
Exactement, le rythme est extrêmement maîtrisé.
Pas Naruto quoi.
Tu découvres toujours des petites choses, etc. Puis tu switches sur un petit à petit, mine de rien, tu switches sur un autre personnage, etc. Enfin bref. En fait, moi, ce qui m'intéresse dans ce manga, c'est qu'à chaque fois, tu dis, alors, ok, celui-là, on a compris pourquoi... Enfin, on a compris ses motivations, qu'est-ce qu'il y a derrière, son histoire, etc. Mais celui-là, là, ce personnage, il va faire quoi avec ce personnage-là? Parce que de premier abord, comme ça, il a l'air sympa aussi, tu vois. Enfin bref, à chaque fois, tu te dis alors qu'est-ce qu'il va trouver cette fois comme histoire sur ce perso-là. D'autant plus que tu te rends compte que par rapport aux événements qui sont passés il y a 10 ans avec son père, etc. Il y a forcément des saloperies qui sont passées. Enfin bref, c'est vraiment t'es accroché quoi. Et l'auteur a une manière de raconter l'histoire qui est passionnante.
Comme tu parles d'histoire et d'enquête, la narration c'est quelque chose de très important. Mais d'ailleurs, tu disais que justement il enquêtait sur les gens qui pouvaient en vouloir au roi. Et apparemment, ce que je semble comprendre, c'est que tout le monde pourrait avoir un motif pour pouvoir le buter. Mais est-ce que...
Alors,
oui.
Justement, c'est là où moi, c'est mon interprétation du manga, si tu veux. Moi, plus j'ai lu ce manga, en fait, plus je suis pas persuadé que c'est Laurent, en fait, mais
Ouais, voilà, c'est qu'il sait pas exactement qui est menacé, voilà. En fait, c'est ça le truc.
Parce que, en fait, ouais. Concrètement, je veux dire, son rêve, au début, c'est meurt, quoi. Point. On sait pas si c'est le roi, machin, bidule, là, je veux dire, sa capacité. Bon, certes, son rôle, c'est de protéger le roi, mais plus ça va, plus je me dis, est-ce que c'est vraiment le roi, en fait? C'est ça le truc. Et voilà, déjà il y a un doute à ce niveau-là, tu vois, qui s'est mis petit à petit dans la lecture. Enfin, après c'est mon interprétation à moi, peut-être que les gens ont pas la même interprétation. Mais en fait, tu te rends compte que sous le vernis très souriant etc., tu as des personnages pas mal torturés entre guillemets et j'aime énormément ça quoi. D'autant plus que c'est extrêmement bien dessiné, c'est très propre. Cette personne-là, elle a vraiment une enfin tu reconnais le son trait quoi, je veux dire les personnages ont du caractère, ce sont pas des clones quoi, c'est pas la guerre des clones, chaque personnage a vraiment une gueule quoi. Et j'ai vraiment apprécié ça. Et bon, voilà, l'histoire des personnages, etc. Bon, après, il y a des trucs un peu cheatés, notamment bon, je vais rien spoiler, mais globalement, c'est une histoire qui est très bien racontée, qui est très cohérente, et j'apprécie beaucoup.
Et le fait que à chaque fois tu découvres un nouveau personnage et ses motivations, est-ce que pour toi ça a eu l'effet de par exemple, de contredire la thèse que tu t'es fait en même temps que le personnage qui évolue, parce que comme tu as dit, tu évolues en même temps que lui sur l'enquête, donc tu dis t'as une piste, mais quand tu découvres une nouvelle piste, est-ce que ça remet en question la piste que t'as découvert juste avant en fait?
Bah. Déjà, tu vois, même sur les personnages que tu as découvert avant, même en parlant du tout premier personnage, enfin celui qui m'a le plus marqué, on va dire, celui qui me paraît le plus suspicieux, il n'y a aucune certitude, en fait. C'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est que d'un côté, tu vois, il a des motivations objectives pour avoir la rage, quoi, on va dire. De l'autre, il a une personnalité telle que tu te dis, mais est-ce que finalement c'est pas un allié, en fait? Enfin, tu vois, c'est il y a une espèce de zone de gris comme ça en permanence, et même sur les suspects, etc. Enfin, tu vois, c'est pas comme un certain roman d'enquête où tu vois, tu dis ah oui, c'est lui, et c'est forcément lui, tu vois. Et non, en fait, t'as un indice, tu vois, qui chamboule tout. C'est pas tout à fait comme ça là. T'es dans le gris permanent en fait. C'est subtil quoi. Et c'est ça que je trouve intéressant en fait.
Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, t'as une avancée, mais t'es jamais sûr de rien en fait.
Voilà. Bon, ouais. Alors je vais pas aller plus loin parce que honnêtement c'est un manga qui est très court. Pour le moment il est qu'à 4 volumes et je pense qu'il dépassera pas les 10 volumes. Hein, et même 10 volumes ça sera très long pour par rapport à ce qu'a fait précédemment l'auteur. Donc voilà, ça, je vous rappelle, ça s'appelle Aruo Sumente. Alors par contre, mauvaise nouvelle. Déjà, je me semble pas qu'il y ait d'éditeur français qui ait pris la peine de publier ce manga. En plus, je pense pas qu'il y ait des scantras de français, malheureusement. Donc c'est anglais only, hein. J'en ai bien peur pour vous, messieurs dames. Donc si vous voulez le lire, il faudra vous mettre à la langue de Shakespeare, n'est-ce pas? Mais bon, dans tous les cas, moi c'est vraiment, je vous le recommande parce que moi c'est déjà l'auteur, je la connaissais pas du tout. Franchement, je connaissais pas du tout son travail, etc. Et je pense que je vais dévorer ses autres œuvres parce que voilà, elle a une manière de raconter l'histoire. Elle s'est spécialisée dans les mangas courts comme ça, et que moi justement j'ai de plus en plus horreur des mangas qui, enfin tu vois, qui se traînent en longueur, qui se finissent jamais.
Bah ouais, c'est clair. Vu que quand t'as des mangas qui sont trop populaires et qui traînent en longueur, t'as toujours ces flashbacks inutiles, des longueurs dans le scénario juste pour vendre plus, quoi, tout simplement.
Naruto.
Bah ouais,
surtout
exemple.
Que moi je suis un spécialiste du genre, hein. Je veux dire, je suis fan de Bastard, je suis fan de Berserk, enfin voilà, c'est que des trucs qui se terminent jamais, quoi, hein, qui mettent 3 ans à sortir en plus. Je suis fan d'Evangelion aussi au passage, enfin j'ai toutes les tartes, tu vois. Donc j'apprécie, tu vois, ces auteurs qui ont du talent pour raconter beaucoup de choses en peu de pages. J'apprécie. Bon, voilà, je vous propose qu'on s'arrête pour cette semaine.
Tout à fait.
On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye à tous.
Bye bye.
Ciao.